d'un chat pour moi n'est pas très intéressante. Mais d'abord, je vais vous demander, donc je vous connais tout un peu, ce que vous attendez du cours, qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous attendez du corps, s'il y a des questions, des thèmes particuliers que vous avez abordés. D'abord, là-bas, je suis quelqu'un qui est dans les sciences scientifiques, qui est un des hommes de très cartésien, tout ce qui est vibratoire, homéopathie ou autre, c'est la grosse famille. Et le hasard a fait que je suis un parent de centre de soins pour animaux sauvages, qu'on a fait des gros problèmes avec les traumatismes crâniens, quand quelqu'un nous a proposé de travailler avec Ernica en homéopathie, et qu'on a eu de bons résultats. Vraiment, de gros changements dans les résultats, donc ça a été assez interpellant. Ce que je pensais de tous ces trucs-là, c'était plutôt genre passer bon conditionnement pour un truc, je me disais que ça fait du bien. Mais sur un animal sauvage, quand on voit vraiment sur un monde en plus des résultats importants, ça pouvait plus nous placer donc petit à petit. Je suis intéressé, on a fait des expériences sur les animaux par rapport à ça. Donc j'ai commencé à avoir une certaine ouverture sur ce qui était vibratoire. On posait des questions toujours avec un certain esprit critique et cartésien, et à la fois constater des changements et des résultats. Et lorsque je voyais des échoppes avec des pierres, qu'on racontait que c'était pour aider, pour soigner, j'y croyais pas du tout. Il y avait à l'époque, c'était une quinzaine d'années, avec Ariane, il y avait un couple qui avait une échoppe avec des pierres, c'était le seul, c'était pas encore à l'époque, les pierres maintenant c'est vraiment de la mode, mais à l'époque, pas du tout. J'avais vraiment l'impression que c'était de la connerie. C'était encore un truc qu'on vendait. Parce qu'il faut mettre que dans le domaine du musée, il y a aussi un aspect commercial qui est non négligeable et qu'il y a des gens qui n'hésitent pas à raconter n'importe quoi pour vendre des produits. Et puis j'ai continué mon chemin avec la sensibilité vibratoire. Et régulièrement, j'étais confronté aux pierres, les gens qui travaillaient avec. Petit à petit, les choses se sont un petit peu imposées à moi. J'ai commencé à faire des expériences avec les pierres et à ressentir, à avoir un ressenti par rapport aux pierres et à remarquer effectivement qu'il y avait des choses qui se passaient en moi. Justifier ou pas justifier, ça c'est mon problème, mais à sentir qu'au contact de certaines pierres, il y avait des modifications pour des sensations physiques. Donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser plus aux pierres, à faire des recherches par rapport à ça, à suivre des cours. Puis avec la kinésio, à mettre ça en place, c'est pas une expérience, parce que tout à l'heure, le test musculaire, en premier temps, quand on ne connaît rien, c'est toujours une occasion de tester. Donc personnellement, j'ai pratiquement la radiesthésie, qui est une autre manière de tester. Je ne vais pas rentrer trop dans le débat de la différence entre l'un ou l'autre. Le test musculaire, c'est une manière aussi de vérifier, de voir comment on va jouer au musculaire.
C'est quoi la radiesthésie?
Fixation du pendule.
Ah, d'accord, ok.
L'antenne de
l'échelle,
ce système-là. Donc, non, c'est pas grave. Je me suis fait un petit plan, j'ai tendance à être un sujet qui me passionne, donc j'ai tendance à partir dans tous les sens, mais c'est pas un gros cadre. Merci. Donc, effectivement, cette idée-là de tester tout simplement, de demander des pierres, et puis quoi faire avec cette pierre, pour la poser quelque part sur un point d'appui ou quoi. Oui, c'est une très bonne démarche. Au niveau de découverte et vérification, en présentation, quelque chose pour la personne. Il se fait qu'en lithothérapie, il y a des gens qui ont développé toute une série d'approches, toute une série d'outils. On va voir un petit peu quoi après. Et donc maintenant, c'est les pierres, personnellement, c'est quelque chose. Moi, rien que voir ça, déjà, c'est un truc que j'adore. Un aspect, un truc qui achète souvent les pierres, de la façon de ressentir aussi un attrait, une attirance, pas explicable nécessairement. Il y a des pierres qui nous fascinent. Et les vraies pierres précieuses, hein, qui sont les quatre pierres précieuses, hein, qui sont le diamant, le rubis, le rouge et le saphir, c'est vraiment les quatre pierres précieuses de joaillerie. Et puis il y a les pierres. Les pierres, ça peut même être un caillou. On va balader, puis on a un caillou qui est au sol, ce caillou nous attire. Ça peut être des cailloux énormes aussi, une dette lui-même, une machin comme ça, une faire découvrir cette approche, la manière dont moi j'utilise un kinésio, des choses que je trouve pertinentes, peut-être des choses que je trouve moins pertinentes, et de vous en faire part. Alors, je vous propose aussi cet espace sous l'angle d'un échange, donc n'hésitez pas à poser des questions, à mettre des suggestions. Moi, c'est quelque chose qui est en mouvement, il n'y a rien qui est figé, donc vous avez des choses à me proposer qui seront intéressantes, des idées que vous aurez à un certain moment, votre pratique, vos expériences que vous avez pu entendre, et de voir comment tout ça en place. En fin de journée, je vous proposerai une procédure un petit peu type pour un travail complètement en équilibration pour votre pierre. On part un petit peu à ce moment-là, on va mélanger ça avec d'autres procédures à d'autres moments. Comment utiliser les pierres. Bon, je vais proposer un petit plan de ce qu'on va voir. Je vais tâcher de suivre un petit peu mon bois ici. Soit. Mon idée, c'est que pour pouvoir vraiment bien utiliser une pierre, il faut l'avoir intégrée pour soi. On peut aller vraiment aller de manière très intellectuelle ou de manière très ressentie. Mais intellectuelle, ça veut dire, ben voilà, je prends un bouquin. Le psychienne, santé créative qui entre l'âme et la force spirituelle sur le plan physique. Tiens, j'ai besoin de montrer, je vais acheter une psyllienne. Oui, ok. Ou je vais la commander sur internet. Beaucoup de gens qui vont le faire sur internet. Alors, pour moi, la pierre, c'est une histoire d'amour, c'est une fascination. Il y a un aspect vraiment vibratoire important dans la pierre. Et je pense qu'on peut apporter à quelqu'un d'autre en silence. Qu'est-ce qu'on peut s'apporter à soi, vraiment, si on peut être efficace en tout cas, qu'on peut amener quelqu'un sur un chemin que sur un chemin qu'on a déjà fait. Un entraîneur de basket aura difficile à amener une équipe de foot à un bon niveau, il pourra faire quelque chose pour eux, mais l'idée est vraiment là. Donc, important, c'est d'abord de découvrir la pierre pour nous. Et pour moi, ça passe par le ressenti, comment découvrir la pierre, avoir une fascination pour la pierre. Et supposer qu'ici on a une obsidienne, on dit c'est une pierre d'ancrage, c'est vrai que c'est une obsidienne, les pierres noires, ça va être des pierres d'ancrage. Mais si toi dans ta sensation, cette pierre, c'est une pierre de lumière, c'est une pierre de clarté, ce que l'obsidienne peut être aussi, parce que c'est un verre, c'est un verre magnétique. Donc il y a une transparence dans le noir, c'est une pierre très subtile, l'obsidienne. Et donc, ta sensation en allemand, eh bien ok, cette pierre, tu vas la vivre comme telle, et tu vas pouvoir l'utiliser comme telle. Quand tu vas prendre ta pierre en séance, avec telle pierre à sortir, ta pierre ne va pas être une inconnue. Cette pierre va être un allié, une amie, quelqu'un avec qui tu as fait un chemin, quelqu'un qui a un sens. Et donc tu vas comprendre ce qu'elle peut faire. Et on ne va pas être dans une séance intellectuelle. Donc voilà, quand je vais demander une obsidienne sur internet, obsidienne sur certains ancrages, alors je vais donner un petit truc, obsidienne, ancrage, machin, je vais là, et tu sens l'ancrage. J'ai l'impression quand on fait ça, on passe à côté de l'essence même de la pierre. On peut faire un travail, et ça c'est un petit peu le genre de formation qu'on donne en lecto. Classiquement, on va dire quelle pierre ça sert à ça, et alors on a des points. Autant de pierres, alors il y a tel problème pour connaître une pierre, là. On rentre vraiment avec des techniques très, très médicales, presque, que ce soit la médecine du corps ou la médecine de l'âme. Et là-dedans, il y a quelqu'un, personnellement, je trouve assez bien, qui est Renal Bosquero, qui est un petit peu une des personnes qui a remis la lithothérapie au bout du jour, qui a sorti un premier bouquin par rapport à ça, en tout cas en français, et qui sensibilise quand même à la rencontre de la pierre pour soi, faire un travail sur les pierres. Et moi, c'est une approche qui est vraiment, vraiment intéressante. Ok. Je vais essayer de ce que je me rends compte, que je vais attendre à mes diarrhées. C'est d'avoir un petit calme. Alors, les pierres, d'où elles viennent ? On va passer sur la création de pierres. Donc, c'est surtout une question, vous les posez. Si vous avez de trop, vous me ramenez dans le chemin. Je suis passionné de ça. Donc, j'espère faire passer aussi cette passion. En tout cas, ça. Les pierres les pierres au niveau dur. Donc une pierre, un petit peu par définition, c'est quelque chose qui dure. Parce que les cristaux, on connaît plein de cristaux. Ce sont deux choses qui sont un petit peu différentes. L'eau, c'est un cristal liquide, par exemple. Puisque l'eau qui fait froid, elle cristallise, elle met un flocon de neige, et que tous les cristaux arrivent à une certaine température fond. C'est simplement que l'eau, fond, c'est un cristal qui fond très rapidement. Enfin, c'est un cristal. Elle a la capacité de se cristalliser. Elle peut avoir des très beaux cristaux, les motos à eau pour très fin, connaissez la notion de moto, ses travaux.
C'est lui avec un mot de tout.
Oui, donc la cristallographie.
Ah, oui.
Ok, donc on a beaucoup travaillé sur les cristaux par rapport à ça. Pas sur l'eau, mais sur sa forme cristalline. Donc les cristaux, c'est une chose, les pierres sont les autres. Les pierres. Cristaux durs à la température ambiante, on doit quelques centaines de degrés. Ils viennent vraiment des forces de la Terre. Les cristaux sont obtenus par des puissances, des chaleurs énormes. Donc à la base, il y a une énergie énorme qui a été mise pour créer ces cristaux. Il y a trois types, ces pierres et ces cristaux, puisque dans les pierres, il y a des cristaux. Il y a trois types de pierres que nous allons utiliser. On a vraiment ce qu'on appelle les roches magmatiques. Donc ce sont des pierres comme l'obsidienne, des pierres qui sont issues du magma, de la chaleur de la Terre, de l'expulsion. Ce sont des pierres qui sont vraiment issues d'un truc. Le diamant, en l'occurrence, semblerait-il, parce que c'est le diamant, les géologues ne sont pas tous d'accord, que les diamants se seraient déjà créés avant même la formation de la Terre. Une poussière stable, puis il y a eu une variation dans cette poussière, ça a commencé à bouger, des choses qui sont mises en rotation, des énergies très importantes qui sont créées. Au niveau du Soleil, il y a eu ce qu'on appelle des phénomènes d'agrégation, donc les différentes planètes, le Soleil, des éléments durs qui sont au niveau du Soleil avec des énergies énormes, puis les planètes qui sont créées. Donc déjà à ce moment-là, en tout cas pour certains géologues, les diamants sont créés. Donc c'est du carbone qui est vraiment soumis, carbone. C'est le charbon, c'est du carbone pur, et le diamant c'est du carbone pur. C'est chaque fois chimiquement, c'est le point, cette différence est la structure entre un charbon qui est un carbone qui est assez friable et le diamant qui est le plus dur des minéraux en posant sur Terre. Donc des forces énormes qui font tout à coup cet atome de carbone, la manière dont il va s'assembler les uns aux autres, puisque l'atome ne change pas. Sa manière de s'assembler. Et bien tout à coup, il va passer dans un truc noir, on appelle du charbon, c'est pas nécessairement comme ça que ça se présente dans l'atmosphère, mais il peut passer d'une structure noire à une structure vraiment cristalline, pure et hyper dure. Ce sont vraiment des forces énormes qui amènent ces compressions, qui amènent des forces, des chaleurs, qui amènent ces pierres. Donc cette pierre porte en elle la mémoire d'une puissance gigantesque. On a des pierres de synthèse, on fait des diamants de synthèse qui sont assez durs à faire et qui demandent des aussi important, très très important. C'est un grand métier de roche qui est apparu, roche et de cristaux, parce qu'en France, c'est roche de métier, bien sûr, on a les granites qui rentrent dans les cristaux, qui est une roche qui est la moins intéressante, pourtant. C'est intéressant d'aller se coller contre une montagne, contrairement à la forme des granites. C'est un métier qui se passe, c'est tout ce possible. Qu'en allait les roches sédimentaires? Alors, les roches sédimentaires sont des roches dues à l'érosion. Donc l'énergie est tout à fait différente. Quelque chose qui a été mis par l'eau, par le vent, qui s'est mis en tout. Qui a été déposé, qui avec le temps s'est retrouvé compressé. Il y a eu des mouvements de la planète. Et ça s'est encore compressé. Et donc avec ça, on obtient des couches textiles, comme le marbre, par exemple. Comme le gypse, comme le sel, donc tout ça sont des roches sédimentaires. Et puis on a ce qu'on appelle les roches métamorphiques. Alors les roches métamorphiques, ce sont des roches soit magmatiques, soit sédimentaires, qui ont subi une nouvelle action de chaleur, de pression, et qui se sont modifiées. Par exemple, l'émeraude. Donc lorsqu'on a une couche, on a une couche de magmatique, une couche de sédimentaire dans laquelle rentre il y a des composantes chimiques d'un côté, le beryllium, le silice, et hop, ça se frotte très fort. Enfin, c'est la technique des plaques, il y a des couches se frottent, il y a échauffement, il y a pression, et il y a apparition de l'énergie. Donc, c'est un troisième type de roche, c'est une roche de transformation, c'est l'énergie de la transformation. Donc là, on trouve trois énergies de base assez différentes dans les roches, une énergie éruptive, une énergie de vie, une énergie d'érosion, un petit truc, on va épuiser un truc. Qui va se faire comme ça, et puis l'énergie de transformation. On a quelque chose de nouveau en prendre la puissance sur la transformation. Ce sont les trois types de roches.
Et comment on appelle les troisième type?
Donc, métamorphique. Je vais tâcher de ne pas être trop dans la technique, dans la minéralogie. Mais là, c'est des petites choses élémentaires. Savoir un petit peu ce qui se passe. Et quand on lit des bouquins, c'est vrai que c'est en général c'est des informations qu'on retrouve dans les bouquins. Le type de roche, moi, c'est plutôt dans les bouquins de minéralogie, dans les bouquins de litho, on va plutôt trouver les systèmes cristallins. Et là, justement, aborder ces systèmes cristallins. Donc, dans ces trois types de roches, on a des roches qu'on va appeler plus brutes, hein, comme le granit, le porphyre, l'argile, enfin, des trucs qui sont. Et puis, dans ces systèmes-là, ce qui se passe dans ces mouvements de magma, il y a de la vapeur d'eau qui va être saturée de minéraux, elle va aller dans des poches, compression, chaleur, ça se refroidit. Un exemple simple, c'est le sel, vous mélangez de l'eau avec du sel, vous laissez évaporer l'eau, là vous avez des cristaux qui apparaissent. Tout simplement, pas les cristaux, c'est la même chose, c'est comme ça. Se fait, cristal de roche, il se fait comme ça. La seule différence, finalement, c'est que le réactif ne s'est pas saturé en 16, ça sera saturé en silice. Les températures et les pressions sont différentes, mais le principe est toujours le même. On va avoir la précipitation d'une solution alcaline saturée. Une fois qu'on a des phénomènes de cristallisation. Et donc, là-dedans, justement, ce qui se passe, comme on remarque dans le cristal de roche, ou un bel exemple ici qui est dans la pyrite, voilà une pyrite naturelle. Elle ne peut pas être taillée. Si la pyrite, c'est du fer. C'est purement du fer.
C'est un cube comme ça. Ouais.
Pas toujours, mais souvent la pyrite. Tu trouves toujours la forme cubique, mais parfois ils sont entrelacés les uns dans les autres. Très fréquemment, donc on trouve un minerai de pyrite comme ça. Pourquoi? Parce que dans sa forme de. En cristallisement, dans le quartz, c'est cette forme-là. En cristallisant, les minéraux vont s'agencer d'une certaine manière. Et c'est là qu'ils vont devenir intéressants, parce qu'ils vont s'agencer de manière très ordonnée. Et c'est ce qui fait le cristal, entre guillemets, c'est son or. Et qui dit or va dire que justement une structure. Efficace. On va avoir une forme qui va s'empiler. On ne va pas avoir quelque chose d'anarchique. C'est ça qui va leur donner leur capacité vraiment vibratoire importante. Parce que tout est vibratoire, un morceau de bois, n'importe quoi, vibratoire, bien sûr. Les cristaux ont une vibration importante parce qu'ils vont s'empiler avec des atomes, vont se structurer de manière ordonnée. Même dans une pierre roulée, ici, on a un quartz roulé, on va se dire, oui, mais ça n'a plus du tout la forme d'un quartz empiré comme celui-ci. Et un quartz à l'intérieur, la structure est la même, c'est pas parce qu'il a été roulé que la structure n'est pas la même. Donc, vraiment, cet aspect-là est un aspect important des cristaux. Cette organisation, l'organisation des molécules entre elles. Et, un petit peu comme par hasard, il y a sept termes. Sept est un nombre qu'on trouve quand même assez souvent dans plein de choses. Donc, je vais vous parler un petit peu de. Enfin, on va être un petit peu technique, mais après, c'est tout. Parce que on va arrêter la nuit. Ce sont des notions de base quand même qui sont.
C'est intéressant.
Donc, on a sept formes de base qui sont le triangle, le carré, le rectangle, le losange, le parallélogramme et le trapèze. Cette forme de géométrie de base. Alors, j'en parle un petit peu aussi parce que tout à l'heure, quand on parlera des géométries cristallines, j'ai oublié mon hexagone. Quand on parlera des géométries cristallines, j'en parlerai.
C'est un petit peu chiant. Je ne suis pas sûr que j'ai noté ça pour finir.
Non. Bon, si vous voulez, parce que je ne l'ai pas noté effectivement dans mes notes, on retrouve les sept systèmes cristallins, et ce sont des termes qu'on va retrouver assez souvent dans le cas. Je pense que pour l'un, par exemple, voilà, système cristallin, amorphe. C'est une simple exception. Système cristallin, hexagonal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Trichimique, ok. Là, c'est la forme, parce que ça vient hexagonal, ok, c'est simple, il y a une autre forme clinique. Donc, trichimique, ça vient du trapèze. Donc, là, les molécules vont s'agencer. On va parler de trapèze. Monoclinique, c'est le parallélogramme. Hexagonal, c'est l'hexagone. Orthorhombique, c'est le losange.
Qu'est-ce
que? Le losange. Orthorhombique.
Oui, c'est. Pour ça, je ne savais pas bien, parce que c'était un nom un petit peu barbare. Mais...
Et le monoclinique,
c'était lequel? Le monoclinique, c'est pareil. Alors, voilà, on a orthorhombique. Le triangle, c'est rhomboédrique. Ça, c'est un système intéressant, on voit écrire, parce que les triangles ensemble, ils s'agencent et ils forment des pyramides. En fait. Le quartz, c'est typiquement du rhomboédrique. Mmh. Et ce sont et la pyramide, on sait bien, un niveau rond de forme, ben, c'est quelque chose qui était fort utilisé, la pyramide, cet ensemble parfait. On peut aller très loin avec la pyramide, hein. Il y a des bouquins entiers sur la pyramide, sur les calculs magnétiques. Et un quartz, c'est une accumulation de petites pyramides. C'est un des systèmes les plus intéressants. Le carré, c'est le système cubique. Typiquement, la grille que je vous ai montrée. Et le rectangle, c'est le quadratique.
Comment est-ce que tu as écrit le rhomboédrique?
Alors, R-O-M-D-O-E-D-R. Alors, un autre bel exemple de système hexagonal, c'est une mythe marine. Voilà, vraiment le cristal qui pousse. On a un hexagone partout. Si c'est hexagonal, il y a 6 facettes. Hein. Donc les berylles, c'est la famille des berylles, qui sont hexagonaux. Donc les berylles, on a dans les connus,
En fait, tout ça, c'est les formes de ce que vous allez capturer.
C'est la structure que le cristal va prendre, oui. Parce que même...
Parce que, par exemple, quand un cristal est taillé, disons, en carré, ou je sais pas quoi,
oui.
Sa structure de base, c'est quand même l'hexagone.
Oui.
Donc, il reste sur sa propriété de truc hexagonal.
Oui, alors on va voir, on parlera un petit peu de la taille et de l'impact de la taille sur la structure. Effectivement, la taille va avoir un sens aussi. Mais la structure, c'est plutôt par rapport aux pierres roulées, parce que souvent on verra ou on entendra que les pierres roulées, bah, c'est moins bien qu'un quartz naturel. Alors pour certaines choses, c'est vrai. Au niveau même de la qualité de la pierre, on garde la même structure, donc on garde le même fonctionnement. Après, une aigle marine qui peut être plus bleu, plus foncé, hein, ici elle est très claire. Okay, donc, là, ça, c'est quelques notions de par dépôt, par précipitation. Donc, c'est là où on se retrouve à l'intérieur de poches. Enfin, tu as des poches, typiquement l'œil de tigre, poche métamorphique. Qu'est-ce qui se passe? On a deux couches de pierre, enfin, deux couches de sédiments qui vont frotter par des mouvements, des éruptions. Donc, il y a des dépôts qui se passent, puis quand il y a des mouvements de terre, chez nous on voit ça assez fort d'ailleurs. Dans la roche calcaire chez nous, il y a du quartzite. Donc souvent, quand il y a une ligne de crise, il y a une petite ligne blanche avec un filet noir. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu un mouvement, ces couches sédimentaires, qui sont le calcaire, ce sont des animaux morts, un tout petit, comme du temps, c'était tropical ici, c'était un petit crevette, tout ce machin-là, elles meurent, et c'est-à-dire cadavres, un calcaire qui se posait au sol, hop, ça a empilé de cadavres. Et c'est pour ça que tu trouves des fossiles. Dans la roche calcaire. Ça s'empile avec le temps, avec la pression, ça devient dur, ça devient une roche. Il y a d'autres éléments minéraux qui viennent se mettre dedans, la période de glaciation, justement, réglation marine, donc il y a moins de crevettes, il y a plus de dépôts avec le vent, bref. Donc ces dépôts donnent un autre produit, la silice, plus de carbone, des choses comme ça. Et ce fait que lors des mouvements, ces plaques ne sont pas tout à fait justes, puisqu'il y a une espèce de partie plus meuble, on va dire, enfin, en tout cas qui a une autre texture, et elle va frotter. Quand il y a un soulèvement, on a des soulèvements ici, qui ont pu ramener des montagnes, enfin, pas chaque fois, c'était pour prendre la terre, les soulèvements sont des puissances énormes, hein, quand on est juste que la terre a été glissée, et que tu as des glissements sur 1000 km d'impact, dont des glissements, c'est pas mal. Et donc évidemment, c'est tout à ce moment-là, elle bouge, se passe très vite, ça bouge, ça frotte, il y a des échauffements, des pressions qui sont énormes, et donc ça, il y a un changement de matière. Quand on a des veines de quartzite chez nous, voilà, qui est une certaine forme de cristal, puisque sous changement de matière, quand il y a changement de matière et puis refroidissement, au niveau physique, il se passe que les molécules vont se réorganiser, parce qu'elles ont chauffé, hein, c'est comme, je reviens à l'exemple avec le sel, tu le fais fondre, là ton sel, il est broyé un petit grain, tu le fais fondre, échauffement, et puis refroidissement, en refroidissant, il va s'organiser. Et il va tout simplement prendre ses formes. Donc ici, on a typiquement une veine
deuil de tigre, qu'on trouve classiquement en pierre rouge associée, pierre que je trouve vraiment très belle. Là, c'est de la veine, en fait. Ça peut être plus grand, c'est un morceau de veine. Donc, c'est pas du tout un cristal, comme on peut trouver une géode avec une boîte de métis ou une boîte de quartz. Donc, il y a vraiment des choses fort différentes par rapport à ça. Alors, pierre, cristal et gemme. Gemme, c'est aussi une appellation qu'on entend. Alors, quand est-ce qu'un cristal est un gemme? On considère qu'un cristal est un gemme quand il peut être utilisé en joaillerie. Alors, bah, ici, justement, l'aigle marine que j'ai là, elle est qualité gemme. C'est un peu de qualité gemme, mais il pourrait être beaucoup plus foncé. Ici, j'ai une rhodochrosite qui, justement, n'est pas très belle. La volée, elle est très belle, rhodochrosite. Parce qu'il y a une convoité, je suis pas sûr de trouver ici. Et la rhodochrosite, on peut la trouver aussi en qualité de gemme. Bien joué. Non, très bien, parce que ça vaut vraiment la peine. Ici, Renate, un bel robot. Alcaline est pure, ou est-ce qu'il y a d'autres phases qui viennent se mettre dedans? Si par exemple, je prends toujours l'exemple du sel, parce que c'est un truc, je pense, qui est plus abordable dans notre technique, dans son approche. Si tu mélanges de l'argile, par exemple, si ça met un petit peu argileuse, pas de cristaux de sel, on peut plus en voir un petit peu de crasse dedans. C'est ce qui se passe avec ceci, et on le voit assez bien avec cette peau aussi, c'est qu'il y a vraiment des stratifications qui se sont faites. Donc il y a des dépôts, parce que ça a été un refroidissement très lent, peut-être on a réamené, donc il y a une autre façon, hein, sur une poche, et puis il y a de nouveau de l'eau saturée qui est venue par le mouvement magmatique, c'est redescendu, c'est remonté, et voilà, on a une rhodo qui est au niveau qualité esthétique pas terrible. Mais au niveau utilisation, il ne faut pas tout la négliger, elle a des qualités. Le vibratoire, et on le sait bien, n'est pas dans la quantité nécessairement. C'est important si c'est une histoire d'amour. Et ici, on a un bel exemple de rhodochrosite. C'est un corps d'eau, et ici on a une variété gène, donc il y a vraiment de la cristalline. Une photo moyenne, mais on voit quand même bien avec la structure, c'est pas du tout une rhodochrosite. Ça, c'est assez rare, la rhodo en qualité gemme.
Il y a moins de noir,
ça. Oui, d'abord, elle est transparente, un gemme en général, c'est transparent. Et ça permet d'être taillé, d'en faire un petit cabochon, un truc comme ça, donc de la tailler, et d'être utilisé en joaillerie. Et c'est la même chose. Mais c'est pas un classique, hein, la joaillerie. Beaucoup plus classique, le rubis par exemple. Tu trouves, le rubis n'est pas cher, on trouve facilement des rubis. Des rubis, saphir, émeraude, tu en trouves, mais qui ne sont pas du tout qualité gemme, même s'ils sont polis, même s'ils n'ont pas cette transparence. Classiquement, les muséologistes achètent leur pierre, ils ont avec une petite coupiote. Pour voir à quel point elle est transparente, à quel point elle est belle, dans leurs critères. Alors bien sûr, les critères de pureté peuvent avoir une importance. Et on pourra peut-être se dire que plus on va avoir un cristal qui est beau, qui est pur, plus il va être efficace. Et je pense effectivement que plus il va être efficace. Mais il n'empêche qu'un cristal qui n'est pas pur et qui n'a pas une très belle forme est aussi très efficace. Peut-être un peu moins. Mais ma part, il n'empêche pas du tout de faire le travail et soulage fortement le porte-monnaie. Parce que si tu veux. L'idéal, quelque part, hein, si on rêvait d'avoir les plus beaux cristaux pour travailler, on aurait besoin de
couleur. Oui, ta vie vient en couleur. Poli. Et là, on a déjà une très très belle base au niveau énergétique. Chaque fois, pas tout de suite. Donc, et tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut faire un très beau travail avec ça. Et derrière ça, il y a une histoire d'amour qui va être importante. C'est vraiment une histoire d'amour, c'est Pierre. C'est comme, je prends sur les mots parce qu'on parle d'amour, d'un partenaire. On va avoir peut-être le partenaire, le diamant, là, qui est inaccessible, corridor, machin comme ça. Et puis son partenaire, il n'est pas parfait. Non, oui. Et si on est mieux avec un partenaire qu'on aime, mais qui n'est pas parfait, ou un partenaire qui est parfait, pour que ça puisse exister, et qui est là, qui n'est pas nécessairement quelqu'un avec qui a un aspect vibratoire, il y a cette histoire d'amour, il y a cette notion de oui, ok, c'est super, et puis il y a cette pierre qu'on va trouver, même ne pas négliger les pierres qu'on trouve en marchant, des choses comme ça. Et c'est justement là que je veux arriver maintenant, enfin, j'ai répondu à la question. Rien d'autre là-dessus pour l'instant. Okay. Les pierres, leur histoire dans l'humanité. L'humain est un animal quand même assez bizarre par rapport à plein de points de vue, et entre autres, à celui de soigner ses congénères. Et dans l'évolution des groupes, des petites tribus, des petits groupements, il est apparu avec le temps qu'il y avait en général un individu plus de chaman, médecine, sorcier, donc tous les noms, mais qui était une personne qui s'occupait de soigner les autres. Alors, il faut dire qu'à l'époque, on devait sans doute plus soigner les problèmes physiques que les problèmes existentiels. Probablement, enfin, dans les premières sociétés qui se sont développées comme ça, le langage était assez rudimentaire, les expressions étaient assez rudimentaires, donc tout est en train de se changer par rapport à ça. Et depuis très très longtemps, les trois médecines, pas le bon terme, enfin les trois techniques utilisées pour soulager les congénères au niveau de la tribu, c'était les pierres, les plantes et les rituels. C'est vraiment les trois choses qui ont fait l'erreur pendant longtemps, hein, avant qu'on trouve d'autres choses. Enfin, c'est vraiment, c'est quelques centaines d'années, avec les lumières, qu'on a commencé à faire la chimie, la synthèse de produits, qu'on a commencé par la médecine, la vraie médecine, pas la vraie médecine. Notre médecine de la cartésienne s'est développée, les champs de bataille, tout ça. Mais des médecins, enfin, quand on dit des trucs anciens, de Pline ou d'autres grecs, hein, les traités de médecine, c'était les plantes et les pierres. Et les rituels, c'est encore un truc un petit peu plus subtil, plus complexe, plus culturel. Donc la pierre a été un outil de soin très important depuis le début. Alors, une grosse question, c'est pourquoi est-ce que ces hommes de médecine, ces sorciers, ces chamans, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, là, ce sont des hypothèses, mais qui ont l'air un petit peu comme la route. Ce sont des personnes qui étaient très fortes dans le ressenti, dans la connexion à ce qui est vrai. Parce qu'évidemment, à l'époque, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'encadrement cartésien, intellectuel, ça n'existait pas. Donc, on ne courait pas la tête aux gens de connaissances. Les connaissances étaient vraiment intuitives, et tu avais des personnes qui étaient beaucoup plus sensibles, connectés, qui devenaient des chamans, des hommes de médecine. Et il semble assez clair quand même que dans ce type de connexion, dans ce type de voyage, les personnes recevaient des informations de pierres, de plantes. Voilà, que ça allait à ça. Et encore ce qu'on voit, c'est que les anciens, les cultures dessinent telle plante à telle forme, et elle a tel type d'énergie, elle va servir à soulager tel type de problème. Donc on est vraiment dans l'aspect ressenti et pas du tout dans l'aspect intellectuel. Donc les pierres ont été utilisées vraiment comme ça pendant longtemps, très très longtemps, jusqu'au Moyen-Âge. Et puis au Moyen-Âge, il y a l'Église qui a voulu prendre une certaine dominance intellectuelle et qui a cherché à
à éradiquer tout ce qui était un petit peu magique, puisque les oratoires, à l'éradiquer dans le grand public, puisque eux, les hommes très très forts utilisés, à éradiquer tout cet aspect vibratoire, ces connaissances en tout cas par rapport à ça. Donc il y a eu petit à petit disparition depuis le Moyen-Âge, depuis les traités, on trouve vraiment des traités, des informations depuis les temps anciens, les Grecs, les Romains, les Byzantins, le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, ça commence à disparaître, on n'entend presque plus parler des pierres. Ni des pierres, ni d'autres choses, en fait, tout à fait obscur. Puis, ce qui est sorti de ça, ben, ça a été l'avènement d'une pensée pseudo-scientifique, artisanale, intellectuelle, quelque chose comme ça qui est sorti, les Lumières, pour arriver un petit peu à ce que nous sommes maintenant. Et dans les années 60-70, ben, il y a eu des mouvements de libération. Il y a des carcans qui ont pété comme ça, des carcans, des mouvements de libération de la femme, de libération des mœurs, libération de plein de choses. On s'est éclaté, dans tous les sens du terme, et on a repris contact avec tout justement des techniques anciennes qui sont revenues, comme ça, avec des phénomènes de mode, bien sûr, mais on a repris contact avec ça. Et là-dedans, il y a, à l'heure actuelle, maintenant, trois personnes, il y a donc trois personnes qui ont un petit peu marqué ces temps-là. Le premier, je pense, le plus ancien. Je n'ai pas réussi à trouver de date précise. On trouve pas mal d'écrits sur lui, donc sur Google, qui entre autres a dessiné le. On l'a vu en. C'est un chiquis, le cristal.
Ah
oui,
les deux
points. Oui, plus que 12. Je pense que c'est bien. Pardon. Multifacété. En fait, Vogel travaillait chez IBM. Bon, c'était un scientifique, pas du tout quelqu'un de. Oui, il a travaillé chez IBM jusqu'à dans les années 80. Ah oui, c'est quelque chose de tant que. Il n'y a plus rien vraiment sur les pierres très concrètes dans les littératures entre le Moyen-Âge et maintenant. Et dans leur usage, enfin, tout ça, bien sûr, c'est resté dans la tradition orale. Mais tous les grands mouvements, même en Chine, la révolution culturelle a cherché à casser toute une série de traditions et de connaissances. Le pouvoir a toujours eu besoin de ce genre de choses. C'est un petit peu dommage. Et donc, Vogel travaillait pour IBM sur les systèmes de mémoire, genre disque dur, système de mémorisation, enfin, il était chercheur, physicien, chercheur, il a découvert des trucs importants, donc je pense que l'un des substrats de disque dur actuel est une invention de Vogel. Et là où il a été interpellé dans son travail par les cristaux, c'est qu'il faisait des recherches, il faisait des recherches sur les cristaux liquides. C'est une solution saline saturée, et on va la faire, on va expliquer ça, et on va la faire cristalliser. Enfin, on doit être dans les années 70-80, comme ça plus. Il est avec son microscope, il est en train de regarder ça, ces cristaux, et puis il se rend compte que, suivant ce qu'il pense, l'état d'esprit dans lequel il est, en observant ces cristaux, les cristaux s'assemblent de manière différente, ils prennent des formes différentes. C'est là qu'on retrouve effectivement les idées des motos. J'ai repris ça bien après. Je ne sais pas si après il faudrait niveau de le box, mais Vogel a travaillé beaucoup sur lui aussi. C'est pas surpris que les motos aient trouvé bien correctement. Ou également, en cristallisant l'eau, suivant la pensée qu'on met, elle prend des cristaux différents. Donc Vogel avait remarqué ça par rapport à un autre type de cristal et que vraiment son idée. L'image mentale dans laquelle il se mettait, alors il avait en fait l'expérience, plus il se mettait dans une image mentale précise, plus les cristaux prenaient quasi la forme de l'image mentale. Il pensait à une madone, et ben le cristal prenait un peu l'apparence de. Enfin, l'ensemble de l'oscillation prenait l'apparence d'une madone. Bon, ça l'a évidemment fort interpellé. À apparemment chez IBM, ils étaient prêts à lancer des recherches. Hein. Parce que ce qui les intéresse IBM, c'est la mémoire, évidemment. Hein. C'est l'aspect mémoire. Et si tout à coup, on programme un cristal et il garde une forme de mémoire. Et c'est ce qu'ils utilisent à l'heure actuelle en électronique, dans les ordinateurs. C'est vraiment le principe. Le fer, c'est une cristallisation. Hein. Tous les oxydes ferreux qu'on utilise pour les supports des disques durs, ce sont des cristaux à mémoire. Donc, IBM apparemment a vraiment bien installé Vogel dans son labo. Et c'est là qu'il a fait ses recherches après sur le cristal de roche, qu'il a constaté les capacités amplificatrices, parce qu'un cristal de roche est utilisé, enfin en tout cas le dioxyde de silicium, qui est la composante d'un cristal de roche, est utilisé en télécom depuis très longtemps, enfin, depuis la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre. Du fait de sa structure, il a une vibration très précise. Enfin, suivant une certaine coupe et suivant une certaine excitation, il garde une vibration très précise. C'est le principe de notre quartz et tout ce qui est à quartz, c'est le quartz de synthèse. Mais sa particularité, elle est très précise dans sa vibration. Ce qui va même nous intéresser aussi, bien sûr. Donc, Vogel a vraiment lancé là-dedans. Une première approche scientifique du quartz, de la capacité du quartz à amplifier des choses, à mémoriser des choses, il a lancé ses propres recherches en 1921, je ne me rappelle bien. Et pendant une dizaine d'années, il a eu son petit labo, il a un labo qui était sous-financé par IBM. C'est un truc qui était des recherches vraiment assez fascinantes, avec une approche très physique, pas du tout une approche allumée. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on entend très peu parler de lui, parce que son approche est vraiment très très technique. Il a quand même voulu trouver un moyen de faire vivre le vin, parce que quand on parle de cristallisation dans le vin, il demandait, dans ses recherches, il y a des moyens de directement faire vivre le vin plus vite, etc. Donc, ça c'est donc un des premiers apports au niveau. Que dit et intérêt qui a suscité une réflexion en même temps par rapport à la taille des cristaux et la capacité de créer les cristaux. Plus proprement parler dans notre sphère, la sphère francophone, même plutôt européenne, bon, c'est vrai que la France a toujours été, que ce soit au niveau de l'essentiel. Au niveau cristal, bah c'est l'abbé celui qui avait développé ce système, qui a découvert ce système cristallin, c'est Jean Bonnet, on a voir Romain qui a remis au bout du jour. Voilà, la France est un petit peu précurseur au niveau européen de techniques anciennes. Donc en France, il y a deux personnes, il y a Bosquiro. D'ailleurs, un truc à les trois bouquins que j'ai pris ici, c'est les trois bouquins qui étaient les premiers bouquins qu'on trouvait sur le marché, classiques, le Poulain, le Jotiro, le Besquiro, puis maintenant, bouquins sur les tellement. C'était les trois avec lesquels on cherchait un petit peu, on avait les premières informations, chacun avait un petit peu sa manière. Je ne retrouve plus ce que je vous ai montré, mais il s'est fait qu'on retrouve mot pour mot dans le bouquin de Poulain. Tu as l'impression qu'il a fait du copier-coller, hein, de vous y rendre. Et j'ai quelques petits problèmes en solitaire. Ouais, il a rajouté des choses à sa manière, hein, mais Bosquero a quand même été, a priori, le premier de sa vie du jour. En fait, Bosquero, lui, il avait épousé, c'est un type qui travaille dans la communication, il a réussi par après, ça avait aidé dans son cursus. Il a épousé une Brésilienne, et il habitait sur Strasbourg, si je me rappelle bien. Donc, sa mère voulait mettre un petit business, le Brésil, c'est depuis des pierres. Donc, quand elle avait des commissions à part, elle disait, c'est une petite échoppe, ce serait beau, il vendait des pierres. Voilà, des pierres comme ça, avec tous les trucs qui tombent. Puis, il s'est rendu compte que certaines personnes, genre vieux, je sais pas, les cultures, il faut savoir que dans la culture juive, il y a encore, enfin, tout l'aspect cabale, tout ça, qui est un aspect très secret qui restait. Très privé, qui a continué à utiliser des choses très très vibratoires. Mais ça n'a jamais été rendu au grand jour. Et donc, dans l'enseignement des rabbins, l'enseignement avancé, ils ont accès à toute une série de connaissances. J'ai constaté qu'il y avait des personnes, entre autres les juifs, qui venaient acheter des pierres, mais pas du tout des minéralogistes, des gens qui achetaient des pierres pour autre chose. Donc, ils se posaient des questions. Il se fait qu'à l'époque, il avait un frère en Californie, et donc, c'est l'époque des années 70, il va voir son frère en Californie, c'est aux années 70 très pétard, et on va chez les Indiens, on va à l'hôtel, on va fumer, on va prendre des champignons. Et il a rencontré là-bas un sorcier indien, comme ça, qui lui parlait des pierres aussi. Puis c'est un petit peu intrigué, il a fait des recherches, il a cherché une seule chose, et il a commencé à faire. À remettre au bout du jour vous avez tout ce qu'il a trouvé, l'expérience qu'il a fait par rapport aux pierres qu'on retrouve dans son prince à sa ancienne édition, puisque ce petit malin avec une pression maintenant il a ressorti à peu près la même chose en deux éditions plutôt que deux fois 50 euros, mais il y a plus de photos. Petit profit, c'est un petit peu le problème dans le domaine des cailloux. Donc, Bosquero a vraiment travaillé cet aspect-là, plus vibratoire, plus culturel, plus l'approche des pierres. Et puis il y a quelqu'un d'autre, un ingénieur en géologie, ingénieur féminin français, Philippe Perrault, qui a fait aussi une démarche assez similaire, mais lui tout à fait différemment. Lui, il a abordé ça vraiment très très ingénieur. Donc, c'est vibratoire. Non, tradition amérindienne ou autre. Non. Les pierres, qu'est-ce qui donne la couleur d'une pierre, c'est l'oxyde métallique qui est dedans. Et, au même titre que, c'est sans doute le fait de porter un bracelet de cuivre qui aide à purifier, parce qu'il y a des petits éléments de cuivre qui vont passer dans la peau. Comme ça, mais ça passe par la peau, ça va l'ensemble, et puis le purificateur. Donc le gros de ce type reste le cuivre. Et bien, pour Perrault, les pierres, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous prenez une pierre verte en l'occurrence, puisque le vert en général c'est un oxyde de cuivre. Vous prenez une pierre verte, vous la mettez autour du cou, vous la mettez sur un centre d'énergie. Donc, je reviendrai un petit peu après sur le centre d'énergie vu par Perrault, c'est relativement intéressant quand même. Eh bien, il y a diffusion d'un petit peu de cuivre dans l'organisme, donc par phénomène biochimique, la pierre agit. Donc là, on a une approche vraiment qui est très mécanique, biochimique de la pierre, et qui est effective. Et donc, on retrouve dans toute série de bouquins, eh bien, telle pierre, elle va être bonne pour se débarrasser des systèmes de pensée négatifs du passé, et pour vous aider à lutter contre les maux de tête. Ça, c'est un classique de maux de tête. C'est quasi la pierre verte de maux de tête. Parce qu'il y a des oxydes de cuivre, le sucre de cuivre, le purificateur pour le foie, et comme on l'a dit en stress release, eh ben, beaucoup de maux de tête sont d'origine allergique. Donc le foie, réaction à ces maux-là. Sinon, ce que nous avons aussi par notre pratique, c'est que la plupart des maux de tête sont d'origine émotionnelle. Donc, l'idée, et ça ce serait évidemment très simple et très beau, de dire j'ai mal de tête, je prends une pierre verte, je la mets sur moi, j'ai mal de tête, si ça fonctionne à 100%.
effectivement, certains cas, c'est clair. Mais nous savons bien, de par notre travail, que la plupart des mots que nous avons, mots physiques ou autres, même simplement mots physiques, à leur origine, à l'ailleurs. Purement soigner le mal physique, d'abord, si on y arrive, on dépasse pas la problématique et le mal à être dépassé. Donc c'est vraiment aller chercher à un autre niveau. C'est ce que je vais plus vous proposer. Mais donc, mais savoir que les pierres agissent aussi à un niveau purement biochimique et que les écoliers. Par exemple, les cuillers de Rhodochrosite, dans les tribus amazoniennes, il y avait une tradition, c'est que les femmes ménopausées portaient un collier de Rhodochrosite. Et à ce moment-là, elles pouvaient faire partie du conseil des sages. Tant qu'elles n'étaient pas ménopausées et qu'elles n'avaient pas leur collier de Rhodochrosite, elles ne pouvaient pas faire partie du conseil des sages. Et on disait, à ce moment-là, maintenant elle fait partie du conseil des sages parce qu'elle parle juste. Je fais pas comme ça. Mais la Rhodochrosite a un effet, au niveau biochimique, régulateur hormonal. Ça, bon, je pense apprendre que les hormones, par rapport à vos cycles et à la ménopause, ça joue fort. Ça joue sur les humeurs, ça joue sur plein de choses. Et donc, dans leur politique, tant que la femme n'était pas. Régulé au niveau hormone, elle ne peut pas faire partie du conseil des sages. Donc la Rhodo, c'est un truc que je vais expérimenter en fait pour aider les femmes en période d'une pause, c'est vraiment quelque chose qui a tenu fort les inconvénients, tout le malaise dû à la pause. Et là, on est vraiment dans le biochimie, on n'est pas dans le vibratoire.
Sur moi,
tu dois
avoir la pierre en contact avec la.
Et également, c'est dans les exils minéraux, tu as la mémoire, c'est la pierre qui est en contact avec la peau. Tu peux utiliser la mémoire, ce qui s'est passé. Et tu peux recréer dans ton corps en mettant avec la vibration le fait sans avoir la pierre. C'est un peu plus complexe, mais le corps est capable de recréer n'importe quoi. C'est quelque chose qui est assez. On dit toujours, on va manger hyper sain, on va manger ceci, un méga machin, ok, non, enfin, plein de trucs, quand on dit la diététique, ça n'a rien à ça. Et d'un autre côté, tu as des gens qui sont très élevés spirituellement, des sages, des ermites, enfin des gens comme ça, qui jeûnent quasi toute l'année, qui boivent que de l'eau et qui mangent que trois fruits d'herbe. Et qui n'ont pas de carence. Or, sous un engagement diététique, il ne peut avoir que des carences. Donc là, il y a un truc qui interpelle. Les diététiciens n'ont pas sa cause, ça les dérange. Il faut savoir que la diététique, il y a un marché qui est assez alimentaire. Pas très important, le marché des compléments alimentaires. Bon, c'est aux États-Unis. Ça prend moins bien place chez nous, mais malgré tout, on est dans un magasin bio où on voit les compléments alimentaires. Il y en a, c'est pas le marché du tout. Donc, le corps, semblerait-il, est vraiment capable de. Créer à l'intérieur tout ce dont il a besoin, une vitamine, c'est un nouveau, mais ce que dire que le corps est capable de faire des choses, capable de se détruire, comme capable de se construire. Donc donner des informations, là c'est l'aspect, de bifurcation, l'aspect des élixirs minéraux, des élixirs floraux aussi, si on vient faire des élixirs minéraux, on va redonner une information. On va lui donner, on va lui dire, ben voilà, il y a quelque chose là, il y a, la vibration c'est un programme. À l'heure actuelle, la matière, les physiciens font des recherches depuis des années, les cyclotrons, ça a commencé, les antilènes, les cyclotrons cherchaient la matière, elle est toujours de plus en plus grande. La matière, on a vu, tiens, il y a un atome, puis on a vu l'atome, on a vu, c'est constitué d'un noyau d'électrons. Puis on a été chercher plus loin, tiens, il y a un noyau, il y a un
le front et le carré était cherché plus loin, ainsi que le front se fait éclater. On a indiqué les petits éléments actuels dans les éléments qu'on voit, et les petits sont ce qu'on appelle les quarks, et on cherche les bosons. Les bosons qui seraient encore des particules beaucoup plus petites. Il se fait que, pour l'instant, en physique, on est confronté à un gros problème, c'est que ce qu'on observe n'est pas en phase avec la théorie. Il y a des choses qui disparaissent. Et ça, c'est pas possible. Si on prend la définition du trou de Lavoisier, bien se perd, bien se crée, et c'est une base en physique, quand on éclate un élément, on devrait retrouver la somme des éléments éclatés. Eh bien, c'est pas le cas. Ça dérange très fort. Où sont passées cette partie des éléments? Et donc, il y a, à l'heure actuelle, une théorie, parce que c'est une théorie, elle n'est toujours pas prouvée. Il s'est fait que si on garde les théories physiques à l'heure actuelle, elles ne sont pas valables par rapport à ce qu'on observe, donc ça, c'est pas possible. Donc, on est obligé de trouver une nouvelle théorie. Et pour l'instant, la nouvelle théorie qu'on a, la théorie des quantas, et la théorie, enfin, liée au quantas, la théorie du corps. Parce que j'ai entendu parler de la théorie du corps. C'est justement là que ça va être intéressant. Parce qu'on a, on rentre dans un domaine qui nous intéresse très fort, qui est une vibratoire de domaine énergétique. En fait, quand la théorie du corps, ça serait quelque chose de relativement simple et hyper compliqué. Alors que la théorie est hyper compliquée. Je vais prendre plus simple. On imagine que l'univers est rempli de corps. Le vide n'existe pas. Il y a des corps partout. Il y a des corps. Des cordes. Des petites cordes. Imagine des petites cordes. Et ces petites cordes peuvent être mises en vibration. Donc, elle va, cette petite corde, elle va vibrer de cette manière, elle va avoir une information. Elle va vibrer d'une certaine manière et elles vont se mettre ensemble pour créer des éléments constitutifs de la matière. Et donc, la matière, c'est ça qui est le plus pertinent, c'est que la matière n'existe pas. Peut-être vous avez à nous autres dans notre monde, elle est là, on la touche. Mais en réalité, ce qu'on touche, c'est l'interaction du champ magnétique. La matière, c'est du vide. C'est juste des vibrations, et ces vibrations sont tellement denses qu'on les touche. Mais l'air, c'est de la matière, on ne la sent pas, pourtant c'est de la matière. Et le vide, il y aurait une certaine forme de matière, c'est pas du vide, c'est une matière inerte. Donc, ce qui est très intéressant là-dessus, c'est qu'on n'aurait qu'un seul élément identique constitutif de l'univers qui serait cette petite corde et qui vibre de telle ou de telle manière. En gros, pour simplifier, ces cordes étant identiques, on pourrait envisager, dans notre document théorique à l'heure actuelle, qu'on pourrait transformer n'importe quel objet en n'importe quel objet. Puisqu'un objet, c'est un objet. C'est pas en train de se tromper de transformer un chien en caravane. Mais transformer de l'or en plomb, par exemple, hein, le grand rêve des alchimistes, c'est quelque chose qui est très, très, très tangible. Parce qu'on pourrait effectivement envisager de reprogrammer la vibration de cette petite corde pour qu'elle s'assemble différemment et nous donne ce que nous appelons d'autres atomes, qui sont d'autres manières pour cette petite corde d'interagir entre elles. Et donc on aurait d'autres atomes. Donc cet aspect vibratoire est ce qu'on fait quand on pense, quand on lance la pensée, et vous verrez, on va en parler, la pensée énorme, l'intention, c'est juste un peu. La prière, la foi, l'intention, la croyance, tout ça est vraiment programmateur. Et on sait qu'on peut changer les choses dans un sens comme dans l'autre. Nos pensées négatives créent nos maladies, et les pensées positives créent notre bien-être. On connaît bien les problèmes de la pensée positive, et on sait bien que l'autre, les systèmes de croyance négative créent nos problématiques. Donc, vraiment, penser, c'est penser, on va reprogrammer le cœur. On va dire que c'est une telle ou telle manière. On pourrait vraiment envisager, mais je pense, je ne suis pas sûr qu'on pourrait nous autres bien y arriver, mais dans la philosophie de ces cordes, tout peut être reprogrammé. C'est vrai que c'est intéressant pour nous, par le biais des pierres et par le biais d'autres choses, c'est qu'on va reprogrammer. On va donner de nouvelles informations. C'est ce qu'on fait en vidéo. C'est un livre. Et là, je réponds un petit peu à ta question.
cette vibration. Donc la vibration, c'est la manière dont ces petites cordes vont bouger et dont l'ensemble de ces petites cordes va onduler de manière plus ou moins forte, à des fréquences différentes, et va faire qu'on va avoir quelque chose de dense, quelque chose d'éthérique. Et donc ces vibrations vont se communiquer, il y a un aspect. On a l'impression qu'il n'existe que ce qu'on voit, ce qu'on touche. On sait très bien qu'il y a des corps auriques. Avec une certaine sensibilité, un certain travail, on peut commencer à sentir dans sa main des choses qui sont un peu plus subtiles. Quand tu travailles en Reiki, tu sens qu'il se passe des choses. D'une personne à l'autre, on va sentir des choses différentes, mais on sent. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est qu'on n'est plus dans l'intellectuel, on est dans le ressenti. Et donc on se remet en contact avec les cultures humaines. Culture intellectuelle, c'est intéressant, on est dans le ressenti vraiment. Et donc, d'en faire des choses magiques, hein, par exemple, des miracles. Parce que si on y croit, aussi bien la personne qui reçoit que la personne qui veut, on peut tout faire. Donc, le système de croyance, c'est extrêmement important. Et des expériences, des trucs. Voilà, groupe A, groupe B, groupe A, on va donner des placebos, groupe B, on va donner des anti-inflammatoires, on va les donner, bien sûr, tout le monde, ça va être. Puis après, l'expérience, on va connaître. Groupe A et placebo, on a 30%, n'importe quoi, on a 30% de réussite. Groupe B, les vrais, on a 90% de réussite. En fait, on a donné une information commune au médecin. C'est l'inverse. Et le simple fait que le médecin, dans sa conscience, sans le dire aux autres, pensait qu'il donnait un placebo, et bien c'était moins efficace chez les personnes. Vraiment, la croyance, la foi à quelque chose, on dit bien la foi, parce qu'il y a un terme, mais croire en quelque chose, que ce soit en Dieu, en soi, en la force de ses cailloux, ou en n'importe quoi. Croire est fondamental. Et c'est quelque chose qui est important aussi par rapport aux personnes qu'on va avoir chez nous. Si les personnes ont crédit en nous, on crédit dans leur démarche, elles vont vraiment faire quelque chose. On va voir qu'il y a des personnes qui viennent et il ne se passe rien. Et on se retrouve des séances et ça change rien. Et quand on cherche un peu, on se rend compte que ces personnes, en fait, elles ne cherchent pas à aller mieux, elles cherchent simplement à se rendre dans un truc qu'elles ont neuf. Elles n'ont pas à aller mieux. Quand on nous a un fin de troisième, je suis tombé sur un truc. Il y en avait un. En tant que cas, je vais dire, c'est dans une séance gratuite. Ils ne savent pas ce qu'ils vous ont donné non plus. Elle vient, ouais, elle a entendu parler de kinésio, donc la question, mais pourquoi ? Voilà, je vais vous parler de la kinésio, mais j'ai envie d'essayer, mais je ne crois pas que ça peut fonctionner pour moi. D'ailleurs, je n'ai pas de problème. Il faut trouver un examen de troisième. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Donc, tu as des gens qui viennent avec trop de trucs qui viennent te voir. Alors, vraiment, la foi, la croyance, d'abord, après, on se dit, nous avons un autre outil, et que la personne a dans sa démarche. Donc, ça, c'est vraiment très, très important, puisque cette croyance, cette programmation va permettre d'influer sur la vibration ou sur la programmation. Parce que c'est ces petits corps qu'ils ont un programme, qui vont être amenés. Mais avec notre pensée, nous pouvons changer le programme. C'est ça. Donc je reviens sur le Bodhisattva tout à l'heure qui mange 3 fruits par mois. Lui, il est dans sa méditation, il est dans je suis lumière, je suis bien, je réveille, je suis en bonne santé, il programme son corps tout le temps. C'est dans certains chemins pour y arriver, je suis d'accord. Mais à notre niveau, nous pouvons chacun reprogrammer les choses. Et en tout cas, aller dans ce sens-là, reprogrammer. Et utiliser des outils qui ont leur programmation, leur capacité à programmer,
et leur capacité à être programmés.
Je sens les pieds.